Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission. Avec Fabien Olicard, le célèbre mentaliste sera avec nous par la pensée, non non je plaisante, pour nous parler de son spectacle Singularité. Au programme également les coups de cœur cinéma d'Hélène Manarino qui est déjà dans ce studio et qui se prépare pour son journal de la culture. Et puis dans les indispensables, un documentaire et un jeune producteur musical. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Votre journal de la culture qui débute par les moyens mis en place pour que les humoristes puissent continuer de nous faire rire en dépit du coronavirus.
Et oui, notamment le théâtre Apollo à Paris a décidé de réagir suite à la situation actuelle. Ils ont eu une idée assez maligne. Dès cette semaine, vous allez pouvoir regarder des one-man shows en direct de chez vous, en live streaming, donc pour 7 euros. Les salles de spectacle ont été équipées de caméras. Ils ont proposé à tous les humoristes programmés de venir jouer dans le théâtre. Vous allez donc sur le site internet, onglet streaming, vous achetez votre billet, vous recevez un lien pour vous connecter. La recette sera partagée entre l'artiste et les frais techniques engagés par le théâtre. Philippe Delmas, producteur et directeur de l'Apollo, a déclaré « On fait vraiment ça pour les artistes, c'est important qu'ils puissent continuer à s'exprimer sur scène. »
Une initiative similaire a été mise en place à New York au Met, comme on dit, le Metropolitan Opera.
Et oui, un opéra chez soi, Philippe.
C'est
pourquoi
bien ça,
pas,
hein.
Suite à l'épidémie qui empêche donc les spectateurs de se rendre dans les lieux culturels, le prestigieux Metropolitan Opera a décidé de diffuser gratuitement ses plus belles productions à partir de ce soir. Le premier opéra mis en ligne sera Carmen de Bizet à 19h30. Il sera disponible pendant 20h. En France, vous pourrez le visionner dès minuit et demi, mardi et jusqu'à 20h30. Et le programme des diffusions jusqu'à dimanche prochain a été détaillé. Mardi, la Bohème de Puccini. Mercredi, Verdi avec Le Trouvert, la Traviata. Jeudi et vendredi, la Fille du Régiment de Donizetti, un opéra de 2008 avec Nathalie Dessay. Il y aura aussi Tchaïkovski. Sachez que le Berliner Philharmoniker, donc en Allemagne, met à disposition un accès libre au Digital Concert Hall, l'autre nom de la plateforme vidéo de l'orchestre. Plusieurs concerts et images d'archives. Vous vous inscrivez avec votre nom et votre adresse mail. Et puis du côté de l'Opéra de Paris, une programmation de courts-métrages en lien avec la danse et la musique est toujours disponible sur la plateforme Troisième Scène.
On continue sur le sujet du coronavirus. Tom Hanks, le comédien et son épouse, donnent des nouvelles rassurantes.
Et oui, je rappelle que l'acteur américain et sa femme ont été testés positifs au coronavirus. Ils ont été mis en quarantaine en Australie. Tom Hanks était en tournage là-bas pour le biopic d'Elvis Presley. Alors ils ont décidé de rassurer leurs fans. Ils ont posté un selfie avec ce texte. Nous sommes isolés, nous ne pouvons pas le transmettre. Nous vivons au jour le jour. Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour surmonter cette épreuve en suivant les conseils des experts et en prenant soin les uns des autres. Non ? Point d'interrogation. Rappelez-vous que malgré les événements actuels, il n'y a pas de larmes au baseball. Alors cette réplique, c'est un petit clin d'œil au film de 1992, une équipe hors du commun dans lequel il incarne un coach de baseball.
Oui, il fallait l'avoir celle-là, bravo.
Mais Tom Hanks y fait des petits clins d'œil souvent comme ça. Alors son épouse Rita Wilson, quant à elle, a déclaré « Nous sommes reconnaissants pour vos prières, votre amour et votre soutien ».
Et la chanteuse Gloria Gaynor a quant à elle cartonné avec sa vidéo sur l'application TikTok, vidéo dans laquelle elle se lave les mains sur son titre culte « I Will Survive ».
Gloria Gaynor a décidé de rappeler les règles sanitaires en chanson. Elle montre tout simplement l'importance de se laver les mains pendant plus de 20 secondes pour limiter la propagation du coronavirus en chantant donc son titre « I Will Survive ». Cette vidéo, l'artiste de 70 ans l'a postée sur TikTok. Vous savez, cette plateforme, application qui cartonne.
Oui,
je vous invite vraiment à aller voir. Elle est extrêmement drôle. Vous voyez Gloria Gaynor face à son miroir qui nous montre donc tous les gestes d'hygiène, bonne humeur assurée. Et avec cette vidéo, elle a lancé sur tout le hashtag I Will Survive Challenge. Le défi donc, écoutez bien, vous écoutez cette chanson et vous vous lavez les mains. Tout simplement, la vidéo a connu un buzz mondial.
Et puis on termine, on reste dans la musique avec une info plus légère. On quitte les infos liées au coronavirus et on part du côté d'un spectacle sur les années 2000.
Qu'est-ce que j'ai écouté cette chanson ?
Ouais. Donc... C'est générationnel, ça.
Bah, bien sûr.
Alors que moi, pas du tout. Donc, ça indique votre âge.
Bah, oui, nous on a 30 ans d'écart.
Mais oui, voilà, exactement.
Alors, Philippe, oui, ça va nous faire du bien. Back to Basic 2000. Imaginez toutes vos stars des années 2000. Donc, les L5 que vous venez d'entendre, ouais. Notre Tribal King, Yannick, entre autres, réunis sur la même scène. Un peu de nostalgie quand même. 10 concerts sont prévus de septembre à décembre prochain, avec un Zénith de Paris le 7 novembre. Il y aura aussi Sly, Matt Houston, Nutty, Willy Denze, ça va chanter et danser, je pense. Céline Dacosta sera dans la salle, ah, c'est sûr.
Merci beaucoup, Hélène. Vous restez avec nous, on va parler
bien
cinéma
sûr,
avec
à
vous.
Tout à
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Fabien Olicard.
Bonjour Fabien Olicard.
Bonjour.
Est-ce que vous croyez à la transmission de pensée?
Ah non, j'y crois pas, mais je pense qu'on peut la simuler.
Voilà, on va pas la simuler. Merci d'être avec nous au téléphone cause coronavirus, faut-il le rappeler. Vous êtes mentaliste, vous affinerez cette définition un peu plus tard. Vous êtes jeune, on n'est pas 40 ans, et pourtant vous avez déjà 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Vos vidéos sur Internet ont été vues 130 millions de fois. Et vous avez vendu les 2 tomes de vos 2 livres. Votre cerveau est extraordinaire, à 200 000 exemplaires, traduits dans 6 pays. Déjà, c'est pour situer. Votre spectacle Singularité est en tournée dans toute la France. Il va revenir au Zénith à Paris, ce sera le 20 novembre, donc on peut penser que les mesures de confinement seront passées. Entre temps, que se passe-t-il pour vous ? La tournée continue ?
Alors la tournée, elle est suspendue, donc il fallait prendre la décision d'annuler les dates ou de les reporter, donc je les ai reportées. Ouais. Et puis, du coup, j'ai une grande masse de temps devant moi pour avancer sur d'autres projets plus créatifs qui devaient arriver plus tard. En fait, on se réorganise, hein, comme tout le monde. Il faut employer au mieux son temps et puis être un peu mobile, être un peu flexible, quoi.
Alors votre spectacle, c'est peu dire qu'il est mobile et flexible. C'est un mélange d'astrophysique et de mentalisme. D'abord, c'est quoi le mentalisme ? Vous commencez par ça d'ailleurs. Vous donnez la définition, oui, du mentalisme telle que vous la ressentez vous-même.
Oui, c'est ça. Comme il n'y a pas de définition légale, moi j'ai la mienne. Pour moi, c'est un grand sac fourre-tout dans lequel on va apprendre des outils qui viennent du monde de la psychologie, de l'illusionnisme, de l'influence et de la mémoire, dans le but de bluffer les gens ou de les amener à se bluffer eux-mêmes, parce qu'on a tous le même cerveau. Mais ça veut dire que je suis autoproclamé, je ne suis pas spécialiste dans le sens où je n'ai pas fait des études de psychologie, par exemple. Mais par contre, je suis assez curieux pour m'être intéressé à plein de sujets et essayer de retirer tout ce qui m'intéresse dans cette discipline-là.
Dites donc, qu'est-ce que ce serait si vous aviez fait des études ? Vous commencez votre spectacle par de la graphologie, et puis un numéro absolument bluffant. Vous faites monter une fille sur scène, une inconnue, vous lui posez 3 questions sur son père, des questions très très faciles. Évidemment, elle répond oui aux 3 questions, et pendant qu'elle vous parle, je décris l'image pour nos auditeurs, vous écrivez quelque chose, vous retournez sur une grande feuille que personne ne voit, on écoute.
Imagine ton père comme s'il était ici, debout sur la scène. Je vais noter plein de détails sur lui au fur et à mesure. Tu vas me dire quand j'ai bon ou pas. Quand j'imagine ton père, j'imagine quelqu'un avec des yeux. Ça, c'est bon ?
Oui.
Ok, première affirmation correcte. Quelqu'un du sexe masculin ?
Oui.
Oui, elle aurait pu dire non, l'opération s'est bien passée, on n'en sait rien. Quelqu'un de plus âgé que toi également ?
Oui.
Ça part sur un sans faute, est-ce que ça te bluffe terriblement ?
Non.
Ouais, attends, ouais, d'accord, ok. J'ai quelque chose de personnel, presque intime, qui vient sur ton père. Je viens de l'écrire ici. Avant de le révéler, j'aimerais que tu nous le présentes. Comment s'appelle ton père, s'il te plaît ?
Laurent.
Laurent !
Et là, sur la feuille, vous avez écrit Laurent. Mais c'est quoi le truc ? Comment vous pouvez deviner que son papa s'appelle Laurent avec ces 3 questions banales ?
Ah oui, ce passage des spectacles, il est essentiel et il me fait rire d'ailleurs chaque soir. Parce que comme j'ai tendance à expliquer comment je fais et à transmettre beaucoup d'informations, je me suis dit, il faut un passage du spectacle où les gens se disent « Non, c'est pas possible, il a une complice, parce que je vois pas
évidemment
comment il peut faire. »
Je me suis dit « Non, c'est pas possible. »
Oui, c'est ça. Et c'est ce moment-là du spectacle précis, parce que évidemment, je sais pas l'avance qui va monter sur scène. Évidemment, tout ça est fait au hasard. Et évidemment, il y a une explication logique, rationnelle à ce passage-là du spectacle également, et qui n'est pas de la recherche préalable sur toutes les personnes. Au moment où elle monte sur scène, je ne connais pas le prénom de son père à ce moment-là. Et on me transmet pas d'informations. Donc ça, c'est le moment où je rappelle un peu que j'ai beau transmettre les techniques au grand public, j'ai quand même 30 ans d'expérience et d'intéressement à ce domaine qui me permettent d'aller plus loin. Mais j'ai pris une résolution, c'est que dans le prochain spectacle, quand je réussirai un spectacle, je donnerai les pistes pour comprendre ce numéro-là. En attendant, il va continuer de vous bluffer.
Mais vous donnez quand même certaines pistes. Vous demandez aux gens de penser très fort à Descartes et vous devez les deviner. Ça marche. Et le plus fort, c'est que vous révélez une partie de votre technique. Ça s'appelle des tels. C'est quoi des tels ? D'abord, est-ce que je prononce bien ?
Oui, oui, oui.
C'est quoi des tels?
Je suis pas sûr de prononcer mieux que vous. Ouais. Les tels, c'est un truc que les joueurs de poker connaissent très bien. C'est tout ce qui va se passer au niveau du non-verbal et du paraverbal et qui va pouvoir nous donner l'état émotionnel de la personne. C'est-à-dire qu'au poker, par exemple, si on voit quelqu'un qui se touche souvent le visage, c'est pas un tel, c'est une information. Mais si à un moment donné, il se touche plus souvent le visage ou moins souvent le visage que d'habitude, là, ça devient une information et c'est ça qu'on va appeler un tel. C'est tout ce qui va se passer, qui va être en rupture avec comment est la personne habituellement. Ça peut être la déglutition, ça peut être la manière qu'il a de se toucher, la manière de se comporter, la manière de bouger, la manière de crisper la mâchoire. Tout ça vont nous donner des informations sur un changement d'état émotionnel de la personne.
Oui, mais comment se fait-il qu'ensuite vous faites deviner un jeu de cartes, il y a 52 cartes, quelqu'un pense à une carte, je dis n'importe quoi, le valet de cœur, et de la manière dont il prononce cœur-carreau, vous devinez que c'est du cœur ou du carreau, c'est complètement fou. Comment vous faites? Et vous dites tout le monde peut le faire.
Oui, et d'ailleurs maintenant tout le monde le fait dans le public. La version du spectacle a l'attendu. Aujourd'hui c'est un numéro collectif et le public trouve en même temps que moi. Et j'adore ça parce que ça démontre que pour le coup c'est pas magique, qu'on peut tous y arriver si on a un petit guide de méthodologie et surtout qu'on prenne beaucoup d'attention. En réalité, quand par exemple si la personne est une personne habituée à bluffer, elle va avoir tendance à prononcer un peu moins fort la carte à laquelle elle pense, parce qu'elle va cacher l'information. Si la personne n'a pas l'habitude de bluffer, elle va la dire un peu plus fort, parce que le fait d'y penser et de passer dessus, ça va augmenter le volume. Donc on voit comme ça les accroches, par exemple, quand ils disent rouge-noir, si la personne pense à une carte noire, en général, on entend rouge-noir, et on sent un noir un peu plus attaqué, on va dire.
Là où c'est complètement dingue, c'est que vous n'appliquez pas seulement votre savoir sur les gens qui sont dans votre public, mais également sur la vie quotidienne. Par exemple, l'allocution du président Macron, c'était jeudi sur toutes les chaînes. On en parle juste après ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et ce matin dans Culture Média, c'est Fabien Olicard, le mentaliste, qui est avec nous pour parler notamment de son spectacle Singularité, Philippe.
Son spectacle, mais pas seulement, je l'ai dit, vous avez 1,5 million d'abonnés sur vos réseaux sociaux, vos vidéos cumulent 130 millions de vues sur Internet. On va parler de votre chaîne YouTube parce qu'elle marche toujours, tout le monde peut y aller voir et tous les gens qui sont confinés chez eux peuvent y aller. Fabien Olicard, à la fin, il y a un D. O-L-I-C-A-R-D, si vous voulez le retrouver. On peut voir plein de vidéos du genre mentalisme dans la rue ou déduire la vie de 6 personnes par observation. Et à la demande générale, c'est pas une affaîtrie de langage, vous avez publié une vidéo samedi qu'on est déjà à presque 1 million de vues. Discours Corona, c'est vous qui l'avez écrit comme ça, Corona. Je décris la gestuelle d'Emmanuel Macron. Vous avez regardé l'allocution solennelle du président de la République à la télévision jeudi soir et vous avez découvert quoi?
Plein de petites choses. En fait, le but n'était pas de critiquer ou pas le discours, c'était de voir comment il se comportait émotionnellement à divers moments du discours.
Visuellement, il était comment?
Alors, visuellement, il était quand même dans le contrôle. Hein. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on connaît chez Emmanuel Macron. Quand il fait une allocution, il se doute en fait qu'on peut le décrypter. Donc, il est quand même dans un contrôle assez solennel. Et là, on voyait qu'il voulait envoyer de l'empathie aussi émotionnellement. Donc, il interprétait son texte plus qu'il ne le vivait.
Mais est-ce que vous avez des petits fails, comme on dit? Est-ce que vous avez eu des petits ratages visuels?
Des petits. Alors, il y en a un qui m'a beaucoup plu, c'est au moment où il parle de se rendre aux urnes. Je ne sais pas si vous voyez de quel moment je
parle. Ah, mais non, mais
parler.
Là, c'est les ratages que je vais faire entendre. Comme je ne peux pas faire à la radio les ratages visuels, je vais faire. Alors, je vais passer directement au décryptage fait par vous du langage verbal. Ce qui est écrit.
Ça marche.
Notamment quand Emmanuel Macron nous dit qu'ici, en France, nous avons les meilleurs chercheurs et les meilleurs spécialistes. Ça devrait nous rassurer, mais vous, ça vous inquiète.
Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes.
Alors ça, par contre, ça me fatigue. On va passer sur le verbal. Le mensonge passe en général par les superlatifs. Vraiment, je te jure que, je t'assure que. En général, quand on dit la vérité, on n'a pas besoin de dire ça. Mais là, il vient de dire, on a les meilleurs virologues, les meilleures personnes, les meilleurs. Trump a affirmé qu'ils avaient les meilleurs médecins et les meilleurs scientifiques et les meilleurs cerveaux. L'Australie a affirmé avoir les meilleures personnes, les meilleurs médecins, les meilleurs scientifiques, les meilleurs cerveaux, les meilleurs ce que vous voulez. Le Canada a affirmé avoir les meilleurs docteurs. Nous, on a tous les meilleurs.
Ce genre de technique, ça vous énerve, à moins que ce soit vraiment la France qui est les meilleurs, mais non, si tout le monde a les meilleurs, personne n'a les meilleurs.
Oui, c'est ça. Oui, j'avoue que j'étais agacé, je m'entends dire, ça me fatigue.
Mais ouais.
Parce que c'est le cas. C'est-à-dire que en vrai, c'est vrai, on a d'excellents chercheurs, peut-être même les meilleurs, avec l'Institut Pasteur, par exemple, qui fait un grand travail. Ouais. Mais c'est un argument d'autorité et ça donne un coup de canif dans le contrat de confiance. Parce qu'à partir du moment où on va entendre quelqu'un d'autre dire qu'il a également les meilleurs, on perd une forme de crédibilité. Et pourquoi utiliser cette manipulation par l'autorité plutôt que de nous rassurer, de dire le monde entier regorge des meilleurs chercheurs qui communiquent entre eux pour trouver une solution, soyez rassurés de ça. Ça, ça aurait été chouette, en fait. Pourquoi pour vouloir cantonner ça à la France et à l'État français? Et chaque État, chaque pays fait ça en ce moment. Et ça, c'est une vraie petite forme de manipulation, ouais, qui n'est pas du tout nécessaire dans un discours qui est fait pour nous rassurer.
On l'a bien compris. Autre moment que vous avez relevé dans le discours du président, le moment où il annonce la première mesure contraignante.
Rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes.
Le « se rendent aux urnes », pareil, dans la puissance vocale, hein, pas dans le sens des mots, était beaucoup plus timide et discret.
Il considère que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes.
Wow, on est à deux fois plus bas avec une vraie hésitation. Je pense qu'à ce moment-là, mon interprétation est celle-ci, hein, c'est que lui-même sait que c'est compliqué de dire ça. Je pense vraiment d'ailleurs qu'il aurait dû s'abstenir parce que ce doute-là renforce l'incompréhension qu'on a du fait que tu demandes à toutes ces personnes-là de ne pas sortir de chez elles, mais par contre, elles peuvent aller voter.
Et vous dites qu'à ce moment-là, le président ne croit même pas lui-même à son discours.
Ah, il y a un vrai doute, parce que là, ce qu'on n'a pas, on n'a pas l'image. L'image, en même temps, c'est qu'on a son corps qui s'affaisse complètement, ouais, avec la tête qui se met à pencher vers l'avant. Donc, il y a un petit effondrement. Et je vais vous dire pourquoi, parce que intérieurement, je pense qu'il vit un court-circuit de logique. C'est-à-dire que l'illogisme est tellement fort que même lui a du mal à le défendre fermement, parce qu'au fond de son mental, il y a cette incompréhension-là, la même incompréhension que nous on vit, c'est-à-dire que depuis ce matin ou hier soir, on voit dans les médias ce grand problème de tous les Français qui sont sortis hier au restaurant, dans les parcs, etc. Mais il faut comprendre qu'ils se battent aussi avec un problème de logique. On leur dit, mais en même temps, rassurez-vous, sortez pour aller voter, il n'y a pas de risque, on prend les précautions nécessaires. Le double discours était maladroit et lui-même, quand il le dit, on sent toute l'hésitation dans la voix qui, pour moi, est un court-circuit de logique.
Voilà, pas de double discours ici, Fabien Licard. Vous restez avec nous, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Hélène Manarino est avec nous. On va dans un instant découvrir sa sélection de films sortis en VOD et on le fera avec notre invité, le mentaliste et youtubeur Fabien Olicard, Philippe.
Fabien Olicard, vous êtes youtubeur, Céline l'a dit. On ne va pas tout raconter, mais dans votre vidéo, dans laquelle, vidéo qu'on peut trouver en ce moment, dans laquelle vous analysez le discours d'Emmanuel Macron jeudi, il dit à un moment donné, il répond à la question que tout le monde se pose, mais combien de temps le confinement va-t-il durer? Et quand il dit les prochaines semaines et les prochains mois, vous notez qu'il déglutit sur moi et vous dites, en fait, sur moi, M-O-I-S évidemment, et vous dites que dans sa tête, c'est pas du tout des semaines, c'est des mois qui nous attendent, c'est ça?
Oui, en fait, le fait de déglutir à ce moment-là, c'est encore une fois, et on a aussi tout le reste du visage, hein, on a un petit écarquillement des paupières qui est un signe de légère anxiété, on a les sourcils qui remontent, les ridules sur le haut du visage. Tout ça tend à dire que lui a un vrai doute. Alors, ça ne veut pas dire que forcément il a une autre information en tête. Mmh. Ça veut dire que lui-même doute de cette information-là au moment où il a dit. Moi, je pense, ça c'est mon hypothèse, parce que mon travail, tiens, j'en profite pour faire la précision, mais mon travail, c'est de faire des hypothèses, de donner des pistes plus ou moins fiables. Ce que je dis, ce n'est pas une vérité scientifique,
bien sûr,
hein, évidemment.
Ouais. Et d'ailleurs, il y a même cette mise en garde en début de votre vidéo, évidemment.
Oui, c'est pour ça que je l'ai dit là, parce que c'est important, sinon ouais, je tendrai un bâton pour me faire battre. Je ne détiens pas la vérité, je ne suis pas un spécialiste du genre, mais on tend à penser avec tous ces signes-là que lui a un vrai doute et qu'il ne projette pas des semaines. S'il ne projette pas des semaines, logiquement, on sait qu'il ne va pas projeter des jours, donc c'est qu'il projette des mois. En toute logique, il voit beaucoup plus large que ce qu'il dit et c'est traduit par tout ce manque d'assurance, qu'il soit dans le déglutissement, par deux fois d'ailleurs, hein, les deux fois où il va le dire, et par tous les symboles qu'on a sur son visage à ce moment-là que je viens de décrire.
D'accord, vous êtes chez vous, j'imagine que vous avez un stock de DVD, de Blu-ray, que vous êtes abonné à tous les sites de SVOD, c'est bien ça? Vous me dites,
ah oui,
je suis ou non?
Oui.
Super, c'est juste parce que je voudrais qu'on entende Hélène Manarino. Bon, rebonjour Hélène.
Rebonjour.
Parce que ce matin, elle va partager avec nous ses coups de cœur. Eh bien oui, que faut-il regarder pour celles et ceux qui sont en confinement, comme Fabien Olicard et d'autres? Il est question de cinéma, mais sans aller évidemment dans une salle de cinéma qui sont fermées.
Évidemment, coup de cœur cinématographique pour vous accompagner. Et oui, dans cette période un petit peu compliquée, il est possible de découvrir, revoir quelques films qui m'ont personnellement marqué. Et je ne suis pas la seule, je vous assure. Parce que ça fait du bien de se replonger dans quelques films incontournables grâce à la vidéo à la demande. Et Philippe, si on commençait avec un petit peu d'amour.
Allez-y.
Oui, vous aimeriez revivre la rencontre de votre premier amour?
Oh non, on avait trop de boutons.
C'est ce qu'on répond souvent. Cette belle époque, tiens, et la belle époque que Nicolas Bedos a magistralement réalisée, qui a reçu donc 3 Césars pour 11 nominations, dont le César du meilleur scénario, Standing Ovation au Festival de Cannes en 2019. Il avait été présenté hors compétition. Alors, c'est un voyage dans le temps, à la recherche des sentiments perdus, avec un casting haut de gamme, Daniel Auteuil-Fagnard dans Doriathil et Guillaume Canet. Je vous raconte l'histoire. L'histoire, c'est Victor. Victor, il a 60 ans. Il vit avec Marianne depuis 40 ans. Alors, ça ne va plus. Il va rencontrer Antoine, un homme d'affaires réalisateur qui propose une nouvelle activité. Il propose à ses clients de replonger dans l'époque de son choix, avec tout le décor, les mêmes personnages, le même univers. Victor va choisir celle où il rencontre, eh bien, l'amour de sa vie. Bande annonce.
Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici, si tant est qu'on soit amis.
Tu veux plus qu'on dorme ensemble ?
Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi.
Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle ?
La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme.
Cher monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des Voyageurs du Temps.
Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, hein, c'est pas seulement de la pub.
Concernant l'époque, vous avez une idée ?
Le 16 mai 74. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. Je dirais que vous êtes né à Grenoble, non ?
Et vous me connaissez très 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 bien.
Ah, si vous saviez.
Et vous ?
Moi, je vous dois tout.
Bon, on a envie que cette activité existe,
ouais.
Même dans la vie, non ?
C'est vrai.
Moi, j'ai envie, si Nicolas Bedos peut le faire en vrai. Et surtout, tout le monde se demande, voilà, choisis quoi comme époque, moi, demain, si je peux la revivre ? Vaste débat. Alors, encore une fois, Nicolas Bedos, il met en lumière le grand amour, comme il l'avait aussi fait avec monsieur et madame Adelman, et il pose des questions que l'on peut qualifier d'existentiel. Comment sauver son couple ? Comment retrouver ce sentiment amoureux ? Et comment retomber amoureux aussi ? Pas mal, non ?
Ouais, ça vous a plu ce film ?
Ah, hein. J'ai adoré.
Vous m'avez dit, c'est mon coup de cœur. Voilà, vous m'avez dit
c'est
ça.
C'est mon coup de cœur. Et puis, il y a aussi la question de la nostalgie. Alors, certains vous diront, non, il ne faut pas se replonger dans le passé. D'autres, ouais. Oui. Et au-delà de l'histoire, c'est vraiment la performance des acteurs qui est également à souligner. Mention spéciale pour Guillaume Canet en réalisateur complètement fou. Fanny Ardant est sublime. Daniel Auteuil, touchant, qui d'ailleurs se définit dans la vie comme un grand romantique, un grand sentimental, même si les hommes ont du mal à l'admettre en général. Bref, ce film est attachant, mélancolique, séduisant, un peu de poésie, d'amour et de rêve, dans un monde un petit peu compliqué, voilà, en ce moment.
Et moi, j'ai un énorme point commun avec ce film, c'est que je suis née à Grenoble. Et puis, deuxième coup de cœur, Hélène, disponible aussi en vidéo. Vous attendiez pas ça, hein ?
Ça en fait, ça, un point commun.
C'est ça,
c'est beau. Hein,
disponible également, mais c'est mon côté romantique, disponible également en vidéo à la demande. On va changer de registre. On a souvent souligné la performance de l'acteur dans Culture Média, c'est le Joker.
Et oui, magistralement interprété par... Merci,
Joaquin Phoenix.
Oh, mais vous ne suivez rien, hein,
mais
c'est pas possible.
Mais je suis votre journal de, tous les jours, il y a votre journal de la culture.
Je sais, et c'est dans votre émission en plus, c'est génial.
Mais oui, c'est pour ça, en plus j'écoute ce qui se dit.
Joaquin Phoenix qui a absolument tout raflé, Oscar, Golden Globes, BAFTA, bref. Donc c'est mérité, on peut le dire, il s'est emparé du rire, du sourire qui peut nous terroriser, celui du Joker dans le film réalisé par Todd Phillips, le Joker qui se concentre alors uniquement sur la transformation d'un homme, Arthur Fleck, qui vit à Gotham City. Il souhaite se transformer en un homme assez terrifiant, violent, méchant, mal dans sa peau. Donc Arthur Fleck est quand même un homme plutôt méprisé par la société. Il rêve d'être une star de l'humour, mais il n'a que des pensées négatives, des crises de rire très très inquiétantes, des soucis psychologiques. Bref, il détient toute la folie du Joker. Batman, il n'est pas encore là. Enfin, je ne vous dis rien, il faut le regarder en VOD. Il y a un petit clin d'œil quand même. On écoute un extrait de la bande-annonce.
J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est la dernière fois que nous nous voyons.
Vous écoutez rien, hein ? Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça va au travail ? Avez-vous des idées noires en ce moment ? Tout ce que j'ai, c'est des idées noires. J'ai passé toute ma vie sans même savoir si j'existais réellement. Eh bien oui, j'existe. Et les gens commencent à s'en rendre compte.
Ça vous fait rire ? Vous trouvez ça comique ?
Murray, une toute petite requête.
Ouais.
Quand vous m'appellerez sur le plateau, vous pourriez me présenter sous le nom de Joker ?
Voilà, mettez-vous sur votre canapé ou dans votre lit et regardez ce film. La performance est assez incroyable. Alors, Joaquin Phoenix qui a connu une préparation très stricte déjà au niveau de son poids, il a perdu 24 kilos, régime alimentaire, une pomme par jour.
Oh, oh, dis donc, ça fait rêver. Passé.
Alors, il a dû travailler aussi le rire qu'il a voulu très vite enlever. Il a voulu s'en débarrasser dès le tournage fini. En tout cas, il est époustouflant. Alors, on n'est pas sur du romantisme, mais sur une performance d'acteur. Et c'est difficile de passer à côté, vraiment.
Merci beaucoup, Hélène. Fabien Olicard, vous avez un choix entre La Belle Époque ou Joker ?
Ah, Joker.
Vous l'avez vu ?
Oui, je l'ai vu, mais j'aimerais vraiment maintenant le revoir pour juste apprécier la réalisation, les décors, les images, les lumières et être un peu décentré d'histoire.
On voit vraiment que vous êtes un mentaliste, que vous avez trouvé le moyen de me répondre à une question et je me disais, mais est-ce qu'il me répond ou pas ? Parce que quand on ne veut pas répondre, on dit Joker.
Oh,
oui, c'est vrai.
Non mais il n'y a que vous pour faire ça.
L'humour s'est emparé
mais non,
de
mais
ce
c'est
studio
pas, c'est juste complètement dingue. Tout d'un coup je me suis dit mais il ne veut pas me répondre. Et tout d'un coup je réalise que c'est le titre du film Joker. On est un peu chez les fous. Merci beaucoup Hélène Manarino.
Vous m'avez influencé à dire oui.
Voilà. C'est quoi votre prochain projet? Maintenant que vous avez du temps pour écrire, comme vous nous l'avez dit, votre prochain spectacle, ce sera quoi?
Le prochain spectacle, je pense qu'il va être un petit peu plus centré justement sur les informations qu'on envoie en non-verbal et la manipulation. C'est deux sujets que je n'ai pas énormément traités dans mes spectacles et j'aimerais un petit peu, comme dans la série Lie to Me, me baser sur des faits réels qui se sont passés, qui sont connus avec des célébrités ou des politiciens ou des gens méconnus et détailler un peu ça sur un écran et qu'on joue un petit peu avec les autres.
Merci beaucoup Fabien Olicard. Je le rappelle, votre spectacle Singularité, ce sera au Zénith de Paris le 20 novembre. Donc on a le temps de voir venir l'Érudit d'ici là aura, j'espère, périclité. On peut déjà prendre ses places maintenant. Il y aura d'autres dates qui vont être reportées. Et puis on peut aller sur votre chaîne YouTube, Fabien comme Fabien, Olicard, O-L-I-C-A-R-D. Merci d'avoir été avec nous à distance et par la pensée.
Nos merci indispensables du jour arrivent. Louise Bernard pour nous parler d'un documentaire sur Chiara Ferragni et Angèle Châtelier, elle, du compositeur Augustin Charvet. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est l'heure, Philippe, de nos indispensables du jour. Avec nous dans ce studio, Louise Bernard. Et on va retrouver également Angèle Châtelier qui nous parle d'un compositeur, Augustin Charvet.
Bonjour Angèle.
Bonjour.
Le son est très très bon, ça résonne un peu. Vous êtes chez vous, Angèle?
Exactement.
Vous êtes dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre salle
de
bain?
Je suis dans mon salon, le chat à côté, tout va bien.
D'accord, donc si ça miaule, on ne s'inquiète pas. On a tous besoin de musique, de douceur et d'un petit chat qui ronronne. C'est le nouvel album du chanteur Kali, mais également du producteur qui se cache derrière, dont vous vouliez nous parler, Angèle.
Oui, vendredi, Kali sortait son 9e. Comme cavale, un peu comme pour s'échapper, même si c'est difficile quand même de partir très loin en ce moment. Un album qui se décline aussi en court-métrage et en livre, mais ce qui nous intéresse ici, c'est cet album. Parce que derrière lui, à la production, se cache un prodige du son qui donne une couleur plus pop, plus électro à ce nouvel album de Kali. Ce producteur s'appelle Augustin Charvet et Kali l'a rencontré sur une tournée en hommage à Léo Ferré qu'ils ont faite ensemble. Et la première chanson sur laquelle a participé Augustin, c'est Cavale.
Cette chanson, je l'ai écrite guitare-voix et je l'ai passée à Augustin Charvet et qui a pris ma chanson et qui s'est amusé avec et qui a mis des sons nouveaux pour moi dessus. C'est-à-dire que ma chanson, il l'a déshabillée, il l'a rhabillée en robe de princesse, quoi. Voilà.
Tu me manques, mon bébé. Tu me manques, en crever. Ce soir, je cherche ton rire, tes larmes.
Ces sons-là, cette couleur-là qu'a pu apporter Augustin Charvet à vos titres et à vos chansons à vous, c'est quoi exactement? C'est un grain particulier?
Augustin a un vrai son. Je qualifierais ça de fraîcheur, de pureté. Et je dirais ivre d'insouciance aussi. C'est quelque chose de très instinctif.
Je voudrais vivre heureux. Le reste.
C'est pop et jeune. Augustin Charvet n'a que 24 ans. Il vient de Toulouse et hormis Kali, il a travaillé avec le chanteur Christophe, Serge Lama, Big Flo et Oli ou le rappeur Riles. Un sacré CV. Il mélange donc tous les genres, mais Augustin Charvet a aussi eu son propre groupe qui s'appelle Kidwise. La musique de Kid Wise est onirique, elle est puissante et dans la plupart des morceaux, ça commence en douceur, puis progressivement, ça grimpe, on rajoute les instruments les uns après les autres. Prenons le titre Océan par exemple. Ça commence avec du piano tout doucement. The more you give, the more you tell, more you go inside my head. Et à la fin, ça monte. Augustin Charnay fait aussi des musiques de films et il a sorti son propre projet musical en son nom et c'est tout aussi planant. Qu'est-ce que tu vas faire de ce sourire aux lèvres, de ces milliers de rêves, dis-le-moi. Qu'est-ce que et puis un nouveau titre au tout début du mois. Je suis à toi. Toi qui me relève, qui vit dans mes rêves, ne connais pas ma voix, je dévore les ténèbres, amoureux d'une étoile, mon ange brille dans le ciel et embrase mon âme. J'ai tant rêvé de toi. Voilà donc pour un disque à écouter pendant ce confinement.
Merci beaucoup, Angèle Châtelier.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est déjà la dernière partie de Culture Média, Philippe, avec Louise Bernard pour nos indispensables du jour et un documentaire.
Bonjour Louise.
Bonjour.
Je n'apprends rien à personne, les musées sont fermés, les salles de spectacle également. Donc ce matin, vous nous proposez un documentaire à voir sur une plateforme, en l'occurrence Amazon Prime Video. Ça s'appelle Unposted, ça se traduit comment ?
On peut dire non publié.
Non publié. Alors ce documentaire s'intéresse à la vie d'une influenceuse de mode italienne. Première question pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est-elle ?
Alors Chiara Ferragni, c'est donc une influenceuse, c'est-à-dire une de ces personnalités qui compte des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, 18,8 millions sur Instagram en ce qui la concerne.
C'est énorme.
Ouais, et pour vous donner une idée de son pouvoir d'influence, justement, j'ai un exemple très récent qui n'est pas lié à la mode mais à l'actualité. Elle habite à Milan, donc elle est confinée en fait avec sa famille depuis plusieurs jours et elle a décidé de lancer une cagnotte pour les hôpitaux italiens, une cagnotte en ligne. Et en communiquant uniquement sur son compte Instagram, elle est parvenue à récolter en 5 heures seulement plus d'1 million d'euros en 5 heures. Hein.
Incroyable.
Aujourd'hui, ça fait 7 jours que la cagnotte est en ligne et elle est à plus de 4 100 000 euros de dons. Ça vous donne un bon exemple de la puissance de cette femme.
Donc le documentaire, c'était avant, c'est un documentaire qui s'intéresse à sa vie.
Oui, alors vous devez vous dire que la vie d'une femme qui passe ses journées à publier des photos sur Instagram, c'est pas forcément très passionnant. Mais détrompez-vous, Chiara Ferragni, derrière son image de blonde superficielle, elle est en fait une chef d'entreprise hors pair. Elle est parvenue à monter un empire grâce à sa bonne utilisation d'Internet. Et c'est passionnant de découvrir son incroyable parcours dans ce documentaire.
Alors justement, racontez-nous son parcours.
Bah avant Instagram, il y avait les blogs. Et donc en 2009, il y a 10 ans, celui de Chiara Ferragni sur la mode fait partie des plus suivis. Très vite, à 22 ans, elle a déjà 10 personnes hein, qui travaillent avec elle pour son site internet.
Incroyable.
Il prend une telle ampleur qu'elle parvient à révolutionner le monde des podiums. Comment ? En décrochant des invitations au Fashion Week. Elle qui vient d'une toute petite ville en Italie et qui ne connaît personne dans ce monde de la mode. Elle réussit vraiment un tour de force. Fini le règne des magazines de mode, Vogue entre autres, elle fait entrer les blogueuses au premier rang des prestigieux défilés.
Le métier d'influenceur a permis de réduire la distance entre le monde de la mode et les personnes ordinaires, qui considéraient la mode comme quelque chose d'inaccessible. Les influenceurs ont en quelque sorte aboli les frontières entre la vie de tous les jours et la réalité de la mode. La vita reale e la realtà della moda. Chiara est sûrement la personne qui a permis à un public pour qui la mode était auparavant inaccessible de pouvoir s'identifier à elle, à cette personnalité ambitieuse et déterminée qui est devenue un modèle pour des millions de jeunes femmes.
Ouais, grâce au succès de son blog et de sa popularité sur Instagram, elle est devenue son propre média et elle a pu créer sa marque de vêtements, 400 points de vente dans le monde, hein, sa marque de maquillage aussi. Elle est PDG de 2 entreprises, elle emploie 80 personnes et elle génère 40 millions d'euros, le tout en 10 ans seulement. Et avec un tel succès, elle est même devenue une étude de cas à Harvard.
À quoi ressemble le documentaire ? On l'a su dans son quotidien ?
Oui, il y a plein de séquences inédites dans les défilés, au travail avec ses équipes, en voyage, en famille. Et puis il y a les coulisses de son mariage
hallucinant, complètement démesuré, entièrement filmé et partagé sur Instagram, évidemment. On a quand même un sentiment de gêne de l'avoir tout partagé de sa vie privée comme ça et que ce mariage soit un peu organisé pour avoir des photos et des vidéos incroyables.
Et alors vous-même, qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans le doc, Louise ?
Mais la vraie valeur ajoutée, ce sont les interviews de grands noms de la mode, pas que des créateurs, mais aussi des gens de l'industrie, par exemple Delphine Arnault, hein, que vous connaissez, du groupe LVMH. Ils permettent d'apporter un regard et une analyse très fine sur le succès et l'importance de Chiara Ferragni. Et puis il y a un moment que j'ai trouvé assez marquant, une rencontre entre deux femmes d'affaires, mais de générations différentes. Chiara Ferragni échange avec Diane von Furstenberg, la créatrice et chef d'entreprise. Écoutez, c'est elle que vous allez entendre en premier.
Oh, tu sais, on n'avance pas toujours avec le succès. Le succès n'est pas en constante évolution. Il y a des périodes où tout s'écroule. Ça va, ça vient. Tu peux tout perdre. Ta beauté, ton argent, tout. Mais tu ne perdras jamais ton caractère.
Tu penses que ça t'a desservi d'être une femme ? Tu aurais connu le même succès ou ça aurait été plus facile si tu avais été un homme pour réaliser tout ce que tu as entrepris ?
Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais le plus important, c'est que j'ai réussi à être indépendante et à avoir une vie d'homme dans un corps de femme.
C'est vraiment un documentaire inspirant qui permet de découvrir une jeune femme très attachante pour qui on ne peut avoir que de l'admiration, d'avoir su maîtriser à chaque fois les nouveaux codes d'Internet et d'avoir bâti cet empire. Un conseil, regardez-le en version originale sous-titrée pour le plaisir d'entendre de l'italien, cette si belle langue. Et pour le voir, c'est sur la plateforme Amazon Prime Video. Ça s'appelle Chiara Ferragni, Unposted. Et si vous n'êtes pas abonné, il y a un essai gratuit de 30 jours. Je pense que c'est peut-être le bon moment.
On reste 30 jours, puis à la fin, on se désabonne. Et comme ça, c'était gratos. Merci beaucoup, Louise Bernard. Merci d'avoir été avec nous. L'émission se termine. Culture Média, mais évidemment, reprend deux. Demain à 9h, nous serons avec Laurent Vallée, le directeur général de l'INA, pour Madeleine, nouvelle offre de streaming de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et puis Patrick Poivre d'Arvor, qu'on ne présente plus, pour son nouveau roman chez Grasset, L'Ambitieux. Salut Céline Dacosta, bonne journée à tous à l'écoute d'Europe 1. Ça continue, je vois Théo Manval qui s'installe dans le studio. Vous pouvez déjà commencer à nous appeler et continuer à nous appeler. À bientôt, à demain.
Oui, nous appeler au 39-21. À demain Philippe Vandel. Dans un instant, Andromanov arrive avec toute sa bande et leurs invités pour vous faire du bien sur Europe 1.